écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Et au sommaire du 19h, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé aujourd'hui un message de condoléances et de compassion à la famille de l'ancien ministre des Moudjahidine Tayyip Zitouni, décédé aujourd'hui. Les instructions du président de la République en Conseil des ministres saluées aujourd'hui par les experts, notamment pour l'élaboration d'une nouvelle loi d'orientation agricole et à propos du projet de nouveau code de la route avec des mesures et dispositions plus strictes. Le ministre de la Justice a détaillé aujourd'hui quelques-unes d'entre elles. Le ministre des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui son homologue Sahraoui. Ahmed Attaf et Eslem Bayset ont évalué le résultat des discussions au Conseil de sécurité de l'ONU concernant la question du Sahara occidental et l'adoption de la résolution pour renouveler le mandat de la MINURSO. Le chef de la diplomatie qui a assuré dans un entretien que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui est toujours garanti. L'agence Presse Service a, elle, livré ce soir une analyse de la position algérienne. Installation ce lundi du nouveau Wali de Ingzem par le ministre de l'Intérieur. Saïd Saïd a affirmé que cela entrait dans la vision stratégique globale pour accompagner les nouvelles wilayas, notamment frontalières, pour faire face notamment aux défis sécuritaires et de développement. 360 000 nouveaux logements seront réalisés l'année prochaine. Le projet de loi de finances 2026 consigne ce nouveau programme. Le ministre de l'Habitat était devant la commission finances de l'APN aujourd'hui. On parlera de la situation à Gaza où les raids et bombardements de l'entité sioniste continuent à violer l'accord de cessez-le-feu. La situation humanitaire est des plus désastreuses. Et puis en sport football, on évoquera cette suite et fin de la 10e journée du championnat de Ligue 1 et les rencontres disputées cet après-midi. Une autre débutera à 20h entre le Mouloudia d'Alger et la JS Saoura. On évoquera également les équipes algériennes, les clubs engagés en compétition africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé aujourd'hui un message de condoléances et de compassion à la famille de l'ancien ministre des Moudjahidines, Tayyip Zitouni, décédé ce lundi. Le défunt a été inhumé dans l'après-midi au cimetière de El Beida dans la wilaya d'Oran. À l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de la libération nationale, le président de la République a reçu de nouveaux messages de vœux. Cette fois-ci de son homologue chinois Xi Jinping, et qui a souligné la profondeur des relations bilatérales qui se développent de manière saine et stable, donnant lieu à des résultats fructueux en matière de coopération bilatérale. Le dirigeant chinois qui a relevé l'importance de leur renforcement dans le cadre du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Algérie pour déboucher sur de grandes réalisations. Le secteur de l'agriculture, stratégique pour l'Algérie, il doit se réorganiser. Le président de la République a donné instruction pour élaborer une nouvelle loi d'orientation agricole. Abdelmadjid Tebboune a également mis l'accent lors du Conseil des ministres sur le raccordement des exploitations agricoles. Des impératifs pour booster le secteur, estiment les experts les Mouradoum.
La préparation d'un nouveau cadre législatif d'orientation agricole marque une volonté de repenser en profondeur la gouvernance du secteur. Il s'agit de redéfinir le rôle de chaque acteur pour garantir une meilleure organisation et bâtir un modèle intégré centré sur la planification, l'innovation et la durabilité. Lala Boukhalfa, agronome.
Revoir le fonctionnement, la structure du ministère et de toutes les entreprises dépendantes du ministère afin de lever toutes les lacunes enregistré dans le passé. Monsieur le Président, j'ai été clair dans ce sens-là. Il compte sur le secteur de l'agriculture qui est le poumon de l'économie nationale puisque c'est le seul outil pour réaliser l'autosuffisance et la sécurité alimentaire pour les citoyens.
En ce qui concerne le raccordement des projets agricoles en énergie, il est question d'assurer un suivi rigoureux du projet de raccordement électrique Nord-Sud en raison de son importance stratégique pour l'amélioration des services. services.
Le branchement de toutes les exploitations agricoles, et surtout pour les méga-projets, le cas de projet de Bledenal, Civital et PF. Des instructions ont été données dans ce cadre-là et de faire la liaison entre le nord et le sud en matière de gestion de l'électricité. Et en cas où il y aura des excédents, il faut réfléchir dès maintenant à l'exportation pour l'Europe ou l'Afrique.
Ces deux mesures complémentaires confirment que l'agriculture est perçue comme un pilier économique où la sécurité alimentaire est une question de souveraineté nationale.
Autre dossier d'importance, priorité des pouvoirs publics, examiné d'ailleurs en Conseil des ministres, le projet de nouveau code de la route. Il introduit plus de rigueur pour réduire les accidents de la circulation à travers plus de 50 nouvelles dispositions. Le ministre de la Justice a déroulé aujourd'hui quelques-unes de ces dispositions introduites, invité du Forum de la Radio Nationale, notamment face à la conduite sous emprise de drogue ou carrément plus de rigueur dans le respect des distances entre véhicules. Lotfi Boujmaa.
Le nouveau cadre législatif définira clairement les responsabilités de chacun. Les accidents liés à la consommation de drogue seront spécifiquement encadrés. Les auto-écoles devront exiger des tests anti-drogue. D'autres mesures viendront renforcer le respect du code de la route, notamment le respect des distances de sécurité, des feux de signalisation et des limitations de vitesse. L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans une volonté de rendre la circulation plus sûre et plus responsable.
L'approche telle que orientée par le président de la République est globale face aux accidents de la circulation. Elle est saluée par le président de l'Association nationale de la sécurité routière, Ali Chakriane. Il en parle à Sofia Boukacha.
Ce projet repose sur une approche globale, prenant en compte l'ensemble des éléments qui régissent la sécurité routière, la formation des conducteurs, les dispositifs de contrôle, le rôle de la justice dans le traitement des infractions, ainsi que le recours à des technologies modernes. Il prévoit également l'utilisation d'appareils de dépistage de drogue, ainsi que de moyens de contrôle du poids des véhicules en charge, afin d'atténuer les effets négatifs qui se répercutent aujourd'hui sur l'état des routes.
Dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu aujourd'hui son homologue sahraoui Mohamed Yeslem Bayset. Des entretiens qui ont porté sur l'évaluation des résultats des discussions tenues durant le mois d'octobre au Conseil de sécurité concernant la question du Sahara occidental et l'adoption de la résolution 2797 pour renouveler le mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation des référendums au Sahara occidental. Les deux ministres qui ont salué le maintien par la résolution adoptée des constantes et des bases d'une solution juste, durable et définitive au conflit, notamment le fait que le texte insiste sur la nécessité de mener des négociations entre les deux parties en conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Ils affirment tous deux que la solution doit être mutuellement acceptable. Le chef de la diplomatie sahraoui a tenu dans une déclaration à remercier l'Algérie pour les efforts importants déployés afin de préserver le plan de paix africain et ses fondamentaux.
Après un débat approfondi et long, nous sommes parvenus à cette recommandation qui, sans aucune ambiguïté, souligne l'importance, le caractère essentiel et central du principe d'autodétermination. Elle affirme clairement que le cadre unique et légitime pour résoudre ce conflit lié à l'autodétermination reste celui des Nations Unies. Elle préserve également le rôle de l'organisation internationale créée par la communauté internationale pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. C'est bien l'ONU. C'est donc dans ce cadre que doivent se dérouler les négociations sous la supervision des Nations Unies et de leurs mécanismes dédiés au Sahara occidental. Et en tant que parti sahraoui, nous exprimons notre gratitude à l'Algérie, pays ami et membre du Conseil de sécurité, ainsi qu'aux forces amies au sein du Conseil pour les efforts importants réalisés afin de préserver le plan de paix africain, son orientation générale et ses fondements.
Hier, lors d'un entretien accordé à la chaîne Al 24 News, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que les fondamentaux de la question sahraoui sont préservés dans la résolution adoptée vendredi dernier par le Conseil de sécurité Ahmed Attaf, qui a expliqué la non-participation de l'Algérie à ce vote.
L'Algérie était à deux doigts de voter pour la résolution. Je vous ai mentionné cette petite disposition relative à la souveraineté marocaine au préambule. Nous avons demandé dans la nuit, la veille du vote, que celle-ci soit enlevée et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. C'est ça. Techniquement, c'est ça ce qui a motivé le fait que l'Algérie n'ait pas participé au vote. Les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés. Mais nous étions à deux doigts de voter pour la résolution. Il fallait simplement enlever cette référence au niveau du préambule. Je le maintiens. Parce que dans le dispositif du texte, la référence a été enlevée.
Et dans une analyse ce soir, l'agence Presse Service souligne le rôle central de l'Algérie réaffirmé pour le maintien de la suprématie du droit international à l'égard de la cause Sahraoui, et c'est en bloquant une tentative de vider la question du Sahara occidental de son essence, Maïel Kems.
Un projet discrètement promu dans les couloirs du Conseil de sécurité pour réduire le mandat de la MINURSO à 3 mois seulement, consacrant de facto la suprématie du plan marocain d'autonomie en tant que seule option, dite réaliste, écrit l'APS. Ce scénario aurait signé la mort du référendum d'autodétermination instauré en 1991. Consciente de la gravité de cet enjeu, la diplomatie algérienne, sous la conduite du président de la République, a réagi avec rapidité et maîtrise. Entre New York, Washington et Alger, elle a mené une offensive équilibrée, combinant persuasion, calme et fermeté de principe. Ce travail patient a permis de remettre les négociations sur le rail légitime. Le résultat final en témoigne. La résolution adoptée renouvelle le mandat de la MINURSO pour une année et rappelle que toute solution doit s'inscrire dans le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Les formulations biaisées cherchant à valider la lecture marocaine ont été écartées, confirmant que le dernier mot appartient non pas aux alliances d'intérêts, mais au droit international. Par cette victoire discrète mais décisive, l'Algérie a rappelé qu'elle n'est pas un acteur périphérique du conflit, mais la voix d'une Afrique attachée à la justice et à la liberté. Son intervention n'a pas visé à bloquer une décision, mais à préserver son esprit. Car en de tels moments, le silence équivaut à la complicité avec l'oubli. Alger a ainsi démontré qu'elle reste capable de réorienter le cap des Nations Unies chaque fois que ses principes dévient. L'Algérie a replacé la question du Sahara occidental dans son cadre exact, celui d'une décolonisation inachevée, non d'un compromis politique temporaire.
Et dans un communiqué de la diplomatie russe, la Russie apporte des précisions sur son abstention au vote du projet de résolution concernant le Sahara occidental. Le processus de coordination du texte a manqué pour la diplomatie russe de transparence. Il s'est déroulé de manière précipitée, ce qui a rendu impossible la prise de compte de toutes les propositions d'amendement. La Russie qui rappelle que sa position, notamment pour la mise en œuvre du droit du peuple, le Sahraoui a l'autodétermination. L'information revient. Et votre édition continue avec le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, qui prendra part à compter de demain à Doha en sa qualité de représentant du président de la République aux travaux du deuxième sommet mondial pour le développement social. Le sommet vise à combler les lacunes et à réaffirmer l'engagement envers la déclaration de Copenhague sur le développement social et le programme d'action, ainsi que leur mise en œuvre, tout en donnant un nouvel élan à la réalisation de ce programme à l'horizon 2030. Les souscripteurs au nouveau programme de l'ADL3 paieront leur première tranche ou la première tranche de leur logement avant fin décembre prochain. Une annonce signée aujourd'hui du ministre de l'Habitat, Tarek Belalibi, qui s'exprimait devant la commission finance de l'Assemblée populaire nationale sur les inscriptions de différents programmes de son secteur dans le projet de loi de finances 2026. Il a annoncé dans la foulée la réalisation de 360 000 nouveaux logements l'année prochaine.
Le secteur a bénéficié au titre du projet de loi de finances pour l'année 2026 d'une autorisation d'engagement pour l'ensemble des programmes d'un montant de 614 milliards de dinars et de crédits de paiement pour tous les programmes s'élevant à 859 milliards de dinars. Il est prévu la réalisation de 360 000 unités de logements réparties entre les dépenses d'investissement et les dépenses de transfert. En plus du programme inscrit, le début de l'année 2026 devrait être marqué par le lancement d'un programme portant 1 037 469 unités de logements, toutes formules confondues.
<t'en> Le ministre de l'Habitat, depuis la commission Finances de l'Assemblée populaire nationale, a évoqué l'aménagement du territoire, du ressort désormais du ministère de l'Habitat. Le programme prévoit des équipements publics pour les pôles urbains et les nouvelles cités intégrées. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, a installé aujourd'hui Nourdin Al-Absa à la tête de la wilaya de Ngzam, le nouveau wali, qui est appelé justement à fournir beaucoup d'efforts pour aider à l'essor de cette wilaya. Saïd Saïoud a affirmé que Ngzam recèle des atouts économiques et naturels prometteurs et elle jouit d'une position géostratégique importante en tant que porte de l'Algérie vers les pays du voisinage et un corridor de coopération économique avec les pays du Sahel africain. Saïd a également insisté que cette installation entrait dans le cadre d'une vision stratégique pour accompagner les nouvelles wilayas frontalières, notamment pour faire face aux défis et à la fois de développement et de sécurité.
La décision du président de la République pour cette nomination entre dans le cadre d'une vision stratégique dans le but d'accompagner les nouvelles wilayas, notamment frontalières, et ce, en les renforçant par des cadres compétents, capables de relever les défis de développement et de sécurité à la fois. Une vision stratégique qui exprime le suivi de près du président de la République des affaires locales pour un développement équilibré de l'ensemble des régions du pays.
Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu au poste frontalier d'Ngzam, au cours duquel il a souligné l'importance stratégique de telles infrastructures dans le renforcement des relations économiques avec les pays voisins. Selon un rapport récent sur le projet de menace critique dans la sous-région, la situation est alarmante, sécuritaire. Bien évidemment, la région du Sahel concentre désormais près de 40% des attaques terroristes enregistrées sur le continent africain en 2025, avec un bilan humain des plus lourds. Des pays comme les États-Unis appellent le ressortissant à éviter tout déplacement, notamment vers le Niger. Depuis Niamey, on écoute les précisions de l'analyste politique Moussa Diallo.
Les États-Unis qui demandent à ceux que leurs ressortissants quittent Niger ou qu'ils ne s'y rendent pas.
C'est la même dynamique des groupes armés qui sévissent au Mali, au Burkina et au Niger, renforcer l'agression au niveau des pays de l'AES. Mais au Niger, la situation est moins préoccupante que ce qui se passe au Mali, où ces derniers jours-là, on assiste à des actions principalement sur la capitale du Mali.
Un regain d'attaques terroristes avec des incendies systématiques des camions citernes qui essaient de ravitailler le Mali, pays membre de l'AES. Au-delà du Mali aussi, cette menace ou bien cette pression, elle s'accentue. Il y a des intérêts économiques. Les pays de l'AES disposent d'importantes ressources en or, en uranium, en pétrole et en lithium et plus autres ressources dont d'autres intérêts internationaux en ont besoin. Ils voulaient mettre la main sur ces ressources.
Au Maroc, des associations et organisations dénoncent les campagnes de normalisation menées par le Marzen pour blanchir les crimes et génocides sionistes contre le peuple palestinien. Des associations qui dénoncent également après la publication d'un rapport onusien récent qui atteste de la complicité du Maroc dans l'aide de l'entité sioniste dans ses crimes en lui facilitant l'acheminement d'armes et multipliant les contrats commerciaux. À Gaza, l'entité sioniste continue à violer le cessez-le-feu. Ces raids et bombardements restent quotidiens alors que la situation des Gazaouis se détériore. L'aide humanitaire entre toujours au compte-gouttes sans pour autant connaître l'arrivée de médicaments et autres produits hospitaliers. Ce qui se passe sur le terrain témoigne justement de la situation. Le professeur Ziad Medour, enseignant universitaire, il en parle à Mayelkens.
La situation est toujours terrible, tragique et dramatique dans la bande de Gaza avec la poursuite des bombardements intensifs, de l'occupation contre les civils avec des morts, des blessés, la destruction massive, sans oublier une situation humanitaire catastrophique sur tous les niveaux avec la pénurie des médicaments, de l'eau potable, de la nourriture dans la ville de Gaza où l'accès à la nourriture est limité, où le nombre de camions qui entrent dans la ville de Gaza est très limité par rapport au sud. Les Palestiniens de Gaza sont dans l'attente d'une solution politique, d'un changement. Mais pour le moment, donc, malgré leur espérance, leur volonté, leur détermination, ils souffrent au quotidien de conséquences dramatiques de 2 ans de cette agression horrible.
Au Soudan, 60 000 personnes ont réussi à fuir Al-Fashal ces derniers jours, alors que 200 000 sont toujours entre les mains des forces de soutien rapide. Environ 750 enfants restent sans leur famille. Ils ont fui la ville d'El-Fashal. Les prix du brut ont stable aujourd'hui dans les marchés londoniens, un peu plus de 64 $ après la décision des pays de l'OPEP plus d'une nouvelle augmentation de leur production le mois prochain. Entre-temps, le comité d'organisation des pays africains producteurs de pétrole se réunira demain à Brazzaville avec la participation du ministre des hydrocarbures. L'actualité sportive, c'est avec vous Nessima Djaout. Bonsoir.
Bonsoir Sofiane.
On le suit sur nos ondes, cette suite de la 10e journée du championnat de Ligue 1. Le Paradou enchaîne avec une victoire en battant l'USM Princhelin de but à 0. Tout à l'heure, ce sera le Mouldia d'Alger qui affrontera la JS Saoura à 20h, alors qu'en ce moment même, la JSK affronte le Mouldia d'Albayet.
Et on joue la 75e minute de jeu. La jeunesse sportive de Kabylie mène face au Mouldia d'Albayet 2-1. L'équipe de la JSK qui joue à domicile au stade Hossein Aït Ahmed avait ouvert la marque grâce à Babacar Sarr à la 30e minute de jeu. Mehdi Mrem aggrave la marque à la 49e. Et puis Belmiloud qui réduit l'écart 2-1 pour le moment après 75 minutes de jeu. Je rappelle également, quand vous l'avez si bien dit, le Paradou s'est imposé face à l'USM Franchella 2-0. Premier but signé Soukou et le deuxième à la 11e minute de jeu. Et le deuxième but pour le Paradou signé Abdelkader à la 42e minute de jeu. Et puis super affiche ce soir à partir de 20h au stade Ali Amar de Douéla. Le Mouloudia d'Alger reçoit la JS Saoura. C'est tout simplement pour la première place.
Les clubs algériens en compétition africaine, à savoir la JS Kabylie, le Mouldia d'Alger, l'USM Alger et le CRB, connaissent désormais leurs adversaires en phase des groupes.
Tout à fait. En Ligue des Champions, la JSK est logée dans le groupe B avec El Ahly d'Égypte, le géant africain, les Young Africans de Tanzanie et l'AS FAR, alors que le Mouloudia d'Alger a hérité du groupe C en compagnie des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, El Hilal du Soudan et les Congolais de Saint-Éloi Lupopo. En Coupe de la CAF, l'USM Alger évoluera dans le groupe A en compagnie des Maliens de Djoliba, Safi du Maroc, Saint Pedro de Côte d'Ivoire. Et de son côté, le Chebab des Belouzes sera dans le groupe C avec les Sud-Africains de Stellenbosch, Otto du Congo et les Singida Black Stars de Tanzanie et la JSK qui aggrave la marque 3-1 face au Mouloudia d'Albaïd.
Vous avez été précise, Nessima Djaout. Merci pour ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée par Sida Ali Tobal.